avec le CCF des Terres Solidaires en route vers l'agroécologie. C'est notre chronique, hein, en partenariat avec donc le CCFD. Nous sommes depuis la semaine dernière et vous, Denis Vigne, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. On a parlé, on a un peu découvert votre projet la semaine dernière, enfin la genèse de votre projet. Pour ceux qui n'ont pas pu être là avec nous, vous aviez des parents maraîchers du côté de l'Aloubert. Ça ne vous plaisait pas, c'était trop dur, vous nous avez dit la semaine dernière.
C'est ça,
pour résumer.
Pas assez vaillant.
Et vous êtes parti avec votre épouse, donc sur Toulouse. Vous étiez devenu cadre en informatique et votre épouse cadre en chimie. Et puis à un moment, vous avez tout plaqué, puisque vos parents vous ont donné le corps de ferme, puisqu'ils avaient fait le partage. Un bout à votre sœur, un bout à votre frère, et ils vous ont donné donc le corps de ferme du côté de l'Aloubert. Et là, le projet est né, sans trop même savoir exactement ce que vous alliez faire. Vous avez tout plaqué à Toulouse et vous êtes rentré à la maison à l'Aloubert.
C'est ça.
Et là, cette semaine, déjà, je vous propose qu'on parte un peu à la découverte du projet. Vous arrivez à l'Aloubert, vous avez fait une rencontre absolument qui a bouleversé votre vie et qui a redonné du sens à votre vie, puisque c'est cette rencontre avec ce boulanger de Castelnau-Magnouac.
C'est ça. Ouais. De Montléon-Magnouac.
Montléon, pardon.
Ouais.
Et là, donc, cette rencontre vous dit, mais c'est ça qu'on va faire. On va faire la même chose que ce monsieur. C'est-à-dire que ce monsieur cultive son blé ouais. ancien, attention, c'est sans ça. OGM, pas modifié par l'homme. Il fait sa propre farine, il fait son propre pain et il le vend. Et là, vous avez dit, banco, on va faire la même chose. Alors, on en était resté là un petit peu la semaine dernière. Un truc de fou, vous avez été chercher, démonter un four à bois.
C'est
dans
ça,
le Gers, pour le remonter chez vous.
Ça a été la première étape, déjà, de trouver un four qui permette de faire du bon pain. Et alors,
parce qu'on ne peut pas faire du bon pain dans un four électrique.
Ah si, si,
oui.
Tout à fait. Mais nous, le côté four à bois, c'était l'aspect écologie.
D'accord.
Voilà, énergie renouvelable. Après... Voilà, l'énergie qui chauffe dedans, ça, je ne devrais pas dire ça comme ça, mais clairement, ce n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est que ça soit un four à inertie, qu'il y ait de la sole, beaucoup d'inertie, pour que le pain soit vraiment saisi quand on le met dedans. Et donc, il faut de l'inertie. Donc là, celui qu'on avait démonté, c'est 50 tonnes de matériaux, une fois tout rebâti. Donc c'est vraiment un
ça
gros,
vous a pris
gros projet.
Un temps fou.
Ah oui.
Deux, trois mois pour le démonter, c'est ça?
Juste pour le démonter, deux mois.
Ah oui.
C'est là, brique à brique, tout démonté, les parties de fonte qui étaient très précieuses. Voilà,
j'ai une question toute bête. Hein. Pour être boulanger, il ne faut pas avoir un CAP? Il ne faut pas avoir un diplôme?
Oui, il faut un CAP, c'est une profession
réglementée,
qu'on dit.
Oui.
Mais il y a une dérogation quand on cultive son blé.
Ah,
quand on est agriculteur, on peut transformer son produit jusqu'au bout.
D'accord.
Donc, au début, quand on transformait uniquement notre propre production de blé, ça ne posait pas de soucis, on pouvait démarrer comme ça. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on est dans un autre cadre où on a une équipe avec plusieurs CAP boulangers. Donc,
d'accord.
Mais au tout début, non, on n'avait pas eu besoin de passer le diplôme. Et en plus, en formation CAP boulanger, ce n'était même pas quelque chose qui aurait pu nous aider parce que là, non, le travail qu'on fait avec notre boulange, elle est complètement différente. Quoi. On ne touche pas la levure, on travaille en pur levain, ce n'est pas du tout les mêmes fermentations.
Vous avez dû quand même apprendre ce métier alors?
Eh bien... On l'a appris, dans notre cas, on a pas mal inventé le métier. Alors inventé, pas dans le sens où ça se réinvente complètement, mais au levain, on a quand même une latitude de travail beaucoup plus importante qu'en boulangerie classique. Ça ne veut pas dire que les gens qui travaillent en boulangerie normale, ils n'ont aucun mérite, que c'est tout simple. C'est qu'on travaille la levure, ça va vite, c'est complexe, il y a des formations, ce n'est pas pour rien. Sur le travail au levain, disons que pendant un an, on a fait de l'auto-formation. Christine, deux fois par semaine, elle faisait son pain au levain, elle étudiait, voir un peu comment ça bougeait et tout ça.
J'étais chimiste, donc des métiers, ça a dû lui parler.
Quelque part, ça,
oui.
ça a pu aider. Mais donc, on est sur un produit vivant, on fait notre propre farine, on travaille la farine fraîche. Donc c'est un produit qui est très très variable, même là aujourd'hui, hein, où on a pas mal bordé le truc, on a pas mal de variations. Et on est sur un produit qui est très très instable. Peut-être pas le mot, mais en tout cas qui est variable. On n'est pas norme. C'est pas un produit qui est industrialisé, qui est hyper normé. Oui.
C'est-à-dire que par exemple, si je vous achète un pain aujourd'hui, la semaine prochaine je vous en achète un autre, peut-être qu'il n'aura pas tout à fait le même goût.
Alors, le goût varie peu, mais la forme, la levée, etc., la cuisson au four à bois, bon, c'est vrai que c'est moins régulier que celui que peut sortir Netto, quoi, par exemple. Ouais. Donc voilà, il y a eu une auto-formation. Alors, on ne s'est pas complètement purement auto-formé. On a visité des tas de paysans boulangers, 4 ou 5, mais on n'y a pas passé 6 mois chez chacun. Hein. On y a passé 2-3 jours pour un peu pour voir comment ils faisaient, un petit peu leurs astuces, voir ce qu'on avait envie de reproduire, voir les écueils, les choses qu'ils faisaient, qu'on se dit non, là, clairement, on ne va pas travailler comme ça. Enfin, en tout cas, ça a été très, très intéressant l'accueil qu'on a pu avoir chez les collègues. Et d'ailleurs, c'est pour ça que chaque fois qu'on a des porteurs de projets qui veulent faire un petit stage chez nous, on les accueille
avec grand plaisir.
Avec plaisir, ouais.
D'accord. Et ce n'est pas un concurrent, vous ne le voyez pas comme un concurrent, peut-être
Non. Non. Moi, je n'y crois pas trop à cette notion de concurrence parce qu'on est tellement sur un produit atypique par rapport à la boulangerie classique, que il y aurait un autre boulanger qui s'installerait tout près pour faire à peu près comme nous. Bon, finalement, il crédibiliserait l'offre plutôt que la concurrence.
Alors, ce projet, on le rappelle, au départ, c'était deux. Hein, c'était à deux. Et donc, vous aviez un petit peu de terrain pour fabriquer, pour faire votre blé. Mais ce n'est pas un blé, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est un blé ancien. Alors, c'est quoi la différence entre un blé ancien et aujourd'hui un blé qu'on trouve aujourd'hui avec OGM ?
Alors, avec les OGM, c'est encore autre chose. Hein.
Les OGM, c'est-à-dire qu'on a modifié génétiquement un grain de blé pour qu'il aille plus vite, qu'il pousse plus vite, qu'il ait moins par rapport aux maladies. Enfin, pourquoi on a modifié le grain de blé, en fait ?
Alors, pour le blé, je suis pas spécialement... je n'ai pas forcément l'information, donc je vais éviter de dire des choses que je ne connais pas bien, parce qu'ils ne sont pas autorisés en Europe. Mais pour le maïs, par exemple, les maïs OGM qui avaient failli être autorisés en France, la modification génétique était surtout pour que le maïs résiste aux herbicides utilisés. Donc ça permettait de pouvoir en mettre davantage et sans que le blé chute, quoi. Sans que le maïs chute.
D'accord.
Donc au final, moi, vis-à-vis des OGM, je ne suis pas radicalement contre. Aujourd'hui, les chercheurs sortiraient un OGM qui permettrait de faire pousser du maïs dans le désert, je dis n'importe quoi. Y aurait des risques sanitaires peut-être à mesurer, mais qu'on mettrait en face d'un bénéfice social qu'on pourrait aussi évaluer. Mais là, aujourd'hui, les OGM qu'on nous propose, c'est des OGM qui permettent juste de mettre plus de pesticides, ce qui n'a aucun sens. Donc là, les OGM d'aujourd'hui, je ne vois pas trop l'intérêt, quoi. Ensuite, entre variétés modernes de blé et les variétés anciennes, c'est les variétés anciennes. En fait, c'est des variétés qui ont été abandonnées dans les années 50 parce que c'était un petit peu moins productive et c'était un peu moins facile à travailler en boulangerie. Donc, on a fait des sélections sur des blés qui étaient capables de choper l'azote plus facilement à partir du moment où on a rajouté de l'azote artificiellement et pour faire plus de production et être mécanisable plus facilement, etc. Et ça s'est fait un petit peu au détriment du goût, tout ça, quoi. Des variétés de blé, il devait y en avoir 2000 variétés de blé différentes en France à cultiver. Chaque petit coin avait son blé. Ici, dans les Hautes-Pyrénées, c'était le galère qui était cultivé. D'autres l'appelaient le saragnette, mais c'était à peu près la même variété. Et il y en avait partout, le rouge de Bordeaux, le bladet depuis Lorenz. Enfin, je n'ai pas trop de mémoire, je n'ai pas tous voulu sortir de tête, hein, mais il y en avait un petit peu partout. Donc chacun avait sa petite spécificité, son petit goût, etc. Et partir sur ces variétés anciennes aussi, l'idée c'est que c'est des variétés population. Donc le paysan aussi est maître de sa semence. C'est-à-dire que dans la récolte que je vais faire à la Loubert, parce qu'il me reste quelques terres et que je continue à cultiver à la Loubert, je vais me garder une partie de cette récolte que je ne vais pas transformer en pain, que je vais me trier un petit peu plus finement et que je vais ressemer.
D'accord.
C'est pas des variétés hybrides, donc elles dérivent pas en quelque sorte, et on peut les ressemer d'année en année. Alors c'est un petit peu moins productif, mais en même temps il y a besoin de moins d'azote, donc c'est elles s'adaptent plus facilement. Alors moi, agroéconomiquement, je ne fais pas de miracle. J'ai 7 hectares, j'ai toute l'entreprise à gérer où maintenant on est 16. Donc, je n'y consacre pas suffisamment de temps pour avoir un propos hyper pertinent à faire dessus. Mais
vous avez été confronté dès le départ au fait que vous n'aviez pas assez de terre et de le développement de votre entreprise. Donc, soit il fallait en acheter, en trouver, en acheter et vous les cultiver, ce blé.
Ouais. Hein.
Soit vous avez fait un autre choix, hein, parce que les terres que vous avez trouvées du côté de la Louberve, il n'y en avait pas. Vous êtes parti dans le Gers en chercher.
C'est ça.
Et en chercher dans le Gers, ça faisait très loin d'aller donc jusque dans le Gers, les cultiver, les récolter, les ramener jusqu'à la Louberve pour les transformer en farine, puisque vous faites tout. Hein. Vous allez de A à Z. Du coup, vous avez une autre idée. Vous avez été voir des agriculteurs à côté de chez vous et vous leur avez dit, est-ce que vous pouvez me faire mon blé, c'est ça?
Voilà, c'est ça l'idée. Au lieu de prendre 200 hectares dans le Gers et puis le faire cultiver par une entreprise et sur le papier pouvoir prétendre, ben voilà, c'est mon blé officiellement, etc. Je suis un vrai paysan boulanger, ce qu'aujourd'hui je ne suis plus puisque je suis plus boulanger que paysan, hein, avec mes 8 malheureux hectares. On s'est dit, maintenant, ça va être plus pertinent d'assumer le fait que notre transformation commence quand le blé, les remorques arrivent à la ferme, qu'on le trie, qu'on fait la farine, etc. On en parlera tout à l'heure. Et on a trouvé plus pertinent de dire, ben, vaut mieux travailler avec les locaux et dire, ben voilà, si vous voulez faire du blé bio, bien sûr, alors essentiellement variété ancienne, on préfère, mais ça arrive que pour finir l'année, on ait aussi une dose de variété moderne, hein, toujours en bio. Ça avait plus de sens dans l'idée de circuit court où on offre une perspective de débouché aux agriculteurs locaux qui sont intéressés pour travailler avec nous.
Variété ancienne, ça ne veut pas dire... Vu qu'elles sont anciennes, elles sont bio. C'est parce qu'elles sont cultivées sans avoir aucun additif. C'est ça, hein, aussi, le bio.
Ah oui, le bio, c'est on rajoute pas d'additifs chimiques. Voilà.
On cultive à l'ancienne.
Ouais. Alors, à l'ancienne, au final, non, parce que si on utilise des outils mécaniques modernes qu'on n'avait pas à l'époque, heureusement. Parce que...
Mais bon, on sème
mais
et
en
la
tout
terre...
cas, on essaye de travailler sur les rotations pour compenser les herbicides, etc. quoi. C'est, y a une logique d'essayer de faire rotation.
Alors, quand vous avez été voir ces agriculteurs autour de chez vous, alors, est-ce que vous pourriez me fournir mon blé ils vous ont regardé avec intéressé et ça a été dur de les convaincre ou au contraire, ils disent, oh, Banco, c'est vraiment une très belle idée, je vais te fournir donc tant de tonnes par an de blé. Comment ça s'est passé, ces échanges avec ces agriculteurs qui peut-être faisaient autre chose?
Alors, l'agriculture bio dans les Hautes-Pyrénées, c'est quand même assez faible. Hein, en grande culture, hein, en maraîchage, on en trouve pas mal. En grande culture bio, bon, ça se développe maintenant parce que les gens commencent un petit peu à voir les choses différemment. Mais au tout début, quand on a commencé, c'était très, très rare dans les Hautes-Pyrénées. Mais par exemple, on a un copain à Ibos, Jacques, qui de suite a dit, bon, mais moi, il n'y a pas de souci, faire du blé que vous allez transformer localement, il n'y a pas de problème, j'y vais, quoi. Et ça, ça a été pas mal parce que vraiment, on manquait énormément de terre au début et on ne voyait pas comment on allait répondre à l'offre avec nos 8 hectares sur la Loubert. Et ça a été chouette de trouver quelqu'un comme ça qui joue le jeu, quoi. Alors depuis, on a trouvé d'autres fermes qui travaillent avec nous. Et puis là, voilà, alors petit à petit, alors on ne fait pas de grands appels d'offres hein, parce qu'il faut qu'on puisse le traiter derrière. Mais quand les gens viennent nous voir en disant bah, est-ce que ça vous intéresse d'acheter notre blé, voilà, on va privilégier les offres les plus locales.
Vous leur avez donné un cahier des charges quand même, hein, c'est ça hein?
Ah ben, le cahier des charges, en fait, c'est qu'ils soient bio. Donc là, ils sont certifiés. Il y a un organisme extérieur qui vient certifier leur culture. C'est très, très tracé, hein, ce qui est bio, quoi. Donc il y a ça. Et puis le côté qu'essentiellement, on veut travailler avec nos semences anciennes, quoi.
D'accord. Donc, ça, c'est aussi un travail un peu de longue haleine de trouver ces agriculteurs qui vous fournissent ce blé.
Non, c'est pas un souci parce que là, nous, c'est toujours discutable, mais on offre un prix qui est supérieur à ce que prend la Copé. qu'on me le transforme directement. Donc, c'est pas un souci majeur de trouver du blé. Là, cette année, c'était un petit peu compliqué parce que les récoltes ont été difficiles. Et puis, nous, on a eu une grosse progression. Donc, il y a quelques mois, quand j'ai cherché du blé, c'était vraiment compliqué, quoi. Donc là, j'ai du blé qui est descendu de loin parce qu'on était coincé localement. Donc, ce qui est compliqué, c'est anticiper la demande. Pouvoir travailler au plus local, parce que c'est notre souhait le plus fort, quoi, finalement, pour que c'est du sens tout ça.
D'accord. Denis Vignan, le temps passe très vite avec vous. Je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine. Hein. On a vu votre projet se mettre en route. Hein. Vous êtes parti de Montléon-Magnouac avec ce très beau projet. Et puis vous l'avez mis en route avec votre épouse à deux au départ, avec vos 8 hectares. Et puis... On va partir aussi à la découverte de cette réussite, parce que pour arriver à être aujourd'hui 16 salariés et avoir plusieurs points de vente, à la fois votre magasin, puis vous faites les marchés dans le coin, ouais. On va voir comment ça a démarré aussi cette aventure, comment les consommateurs vous ont connu, ont sûrement apprécié, puis je pense qu'il y a dû y avoir du bouche à oreille, et puis pour arriver à 16 salariés, c'est que la réussite a été là. On discute avec tout ça et on termine cet entretien avec vous, Denis Vigne, la semaine prochaine. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.